l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour chers amis, je suis Michel Collomb, responsable cette semaine de notre émission de la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale. Et je suis heureux d'accueillir à la fois Monique Serrault-Schreiby.
Schreiby,
voilà. Excusez-moi. Et Christian Folliot, qui l'un et l'autre appartiennent au mouvement de la paix. Donc, nous allons parler de ce mouvement qui est quand même très important, surtout dans le contexte actuel, qui est un contexte plutôt de multiplication des conflits, et peut-être qu'on pourra préciser tout cela. Je vais commencer par donner la parole à Christian Folliot, qui est donc un des responsables du mouvement de la paix.
Bonjour. Plus peut-être qu'un des responsables, je suis un des membres, puisque nous sommes nombreux dans ce mouvement pour la paix. Je voudrais juste préciser que, pour ce qui concerne Montpellier, effectivement, c'est un mouvement qui a commencé à se relancer il y a 2 ou 3 ans, et qui commence enfin à prendre de l'ampleur, et qui, avec un certain nombre de partenaires, va donc organiser la semaine de la paix, qui commence le 21 septembre. Pour arriver jusqu'au 26 septembre. Donc peut-être préciser très brièvement, ou rappeler brièvement, sans être exhaustif, quelques-uns des fondamentaux de ce mouvement, qui, je le rappelle, a été créé juste après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui nous importe, disons, dans la stratégie, c'est d'essayer d'apporter l'information non biaisée, l'information vraie, comme on dit, sur la situation concernant effectivement la paix et les raisons pour lesquelles cette paix finalement se détériore dans de très nombreux pays avec des conséquences absolument dramatiques sur les êtres humains. Peut-être un des premiers éléments qui nous soucie beaucoup, c'est celui de diffuser l'information sur les armes, sur la production des armes et sur la circulation des armes. Je voudrais rappeler très brièvement que ce qu'on appelle le Conseil de sécurité, si vous tapez sur Internet quels sont les 5 plus grands vendeurs d'armes, vous avez exactement la même liste. C'est-à-dire que ce Conseil de sécurité, ceux qui ont le veto, sont les plus grands vendeurs d'armes au monde. Ce sont les mêmes, les 5, donc on pourrait l'appeler peut-être Conseil d'insécurité plutôt que Conseil de sécurité.
Oui, Conseil d'insécurité, c'est très bon.
Voilà, donc la présence et la vente des armes est une des conditions fondamentales qui fait que la paix a du mal à s'installer, parce qu'on parle souvent des guerres, disons, entre pays, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur des pays, qui est absolument terrifiant dans beaucoup de pays, sans que des guerres soient déclarées. Il y en a de très nombreux en ce moment, Haïti par exemple en est un exemple, mais ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de pays dans lesquels la circulation des armes, disons, crée des problèmes. Le deuxième élément fondamental sur lequel on tient à diffuser l'information autant que nous le pouvons, c'est les conditions socio-économiques des gens qui, effectivement, quand elles se dégradent énormément, font qu'une partie des populations à la base, qui sont dans des conditions extrêmement difficiles, effectivement, n'ont plus d'autre solution que de se retrouver, disons, partenaires de gangs, partenaires de mafias, partenaires de tout ce qui crée des désordres et des drames humains en permanence. Donc la dégradation des conditions socio-économiques, et en particulier d'une économie néolibérale avec tous les impacts négatifs qu'il peut y avoir, nous soucie énormément également. Un autre élément qui est important, c'est la construction, disons, culturelle, assez souvent, ou sociale, disons, des rapports de domination-dominée. Et donc, nous essayons, autant que faire se peut, de diffuser de l'information pour déconstruire ces rapports dominants-dominés, dont souvent les femmes en particulier et les jeunes sont victimes. Donc, ce sont des éléments fondamentaux, disons, que le mouvement pour la paix essaie d'une façon globale, disons, de diffuser un certain nombre d'informations pour essayer, disons, de rétablir un peu plus de vérité par rapport à ce que les médias traditionnels peuvent souvent diffuser sur leur chaîne. Dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on organise chaque année, avec un collectif, la Semaine de la Paix. Alors, le collectif, je vais peut-être rapidement le dire qui en fait partie pour le moment. Il y a effectivement la FSU et la CGT retraités, les Maires pour la Paix, la Ligue de défense des droits de l'homme, le MRAP, AFPS-CDTM, Rencontre Marx, et bien sûr le Mouvement pour la Paix, et d'autres partenaires individuels d'ailleurs qui participent à ces débats. On a trouvé pour cette Semaine pour la Paix effectivement un certain nombre de partenaires pour pouvoir organiser des choses dans des lieux différents qui permettent à des personnes différentes de pouvoir participer et assister gratuitement, disons, à ces éléments, sauf dans les cinémas, effectivement, il faut payer l'entrée, mais ce sont des entrées à des prix réduits, donc qui permettent à tout le monde de pouvoir assister. Donc je rentrerai dans les détails.
D'accord. Peut-être un peu. Alors, on va peut-être préciser les dates et l'endroit où, où vont se dérouler les événements.
Voilà, alors on va commencer par le dimanche 21. Il y a une journée internationale, qui est la Journée internationale de la paix. Donc, il y aura à 11h une projection du cinéma, au cinéma Utopia.
Oui, voilà. Donc, est organisée par la FPS.
Voilà.
La FPS a un partenariat avec l'Utopia et on, le dimanche, au moins une fois par mois en général, on propose un film soit israélien, soit palestinien, parce qu'il y a des Israéliens qui font des films très intéressants et qui sont très réalistes sur la vérité de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Là, ce sera un documentaire de Guy Davidi sur des jeunes qui se sont suicidés au moment où ils sont entrés dans leur service militaire. Ce sont des jeunes que l'on suit depuis le début, depuis l'enfance, où on les voit dans des classes où on leur impose une vision tronquée de la réalité, où on leur demande de dessiner des chars, où on leur montre des films sur la Shoah, etc. Et il y a quelques enfants que l'on voit être différents. Par exemple, il y en a un qui dit « Moi, ce que je voudrais, c'est dessiner des animaux parce que j'aime les animaux. » Donc ces enfants qui sont un peu à part, on les voit grandir jusqu'au jour où ils sont obligés d'entrer dans l'armée. Et c'est un film bouleversant que je vous recommande de venir voir. Et par chance, dans la mesure où la Semaine de la Paix a demandé à Sophie Bessis de participer à la Semaine de la Paix, on a demandé à Sophie si elle avait accepté de présenter ce film. Donc ce sera à l'Utopia à 11h du matin le 21 et ce sera suivi d'un débat et puis d'un brunch. Donc Sophie Bessis, je rappelle, c'est une historienne juive et tunisienne d'origine qui a beaucoup écrit d'essais, qui est en faveur de la vérité en ce qui concerne justement la Palestine, qui a participé au recueil collectif que j'ai déjà présenté ici qui s'appelle « Parole pour une paix en terre de Palestine ». Elle a eu la gentillesse d'écrire un texte qui est très fort et qui est dans ce livre et qui est édité par Chèvrefeuille Étoilée, donc une maison d'édition montpelliéraine de femmes et de femmes qui ont un lien avec l'autre côté de la Méditerranée. Donc, venez écouter Sophie Bessis et si vous avez l'occasion avant, essayez de vous procurer le dernier essai qu'elle a écrit, qui est très intéressant, qui est sur la notion de judéo-christianisme qu'on nous impose depuis les années 80, une manière de nous faire croire que juifs et chrétiens français sont unis, ou même européens, et qu'on a toujours été très proches, comme s'il n'y avait pas eu l'affaire Dreyfus, comme s'il n'y avait pas eu l'Inquisition, le Veldiv, etc. Et qui a plutôt tendance, justement, à nous éloigner de l'autre monde, le monde des arabo-musulmans. Donc, il faut vraiment lire ce petit recueil qui est très facile à lire, qui fait 10 euros, qui est pas très long, mais qui nous donne des détails importants sur, sur la réalité.
Je rappelle le titre, si vous permettez.
Oui, voilà.
Parole pour une paix en terre de Palestine. Ah, oui. Essai aux éditions Chèvrefeuille.
Ça, c'est pour le recueil que nous avons fait sur la Palestine, où voilà. Il y a effectivement un certain nombre de juifs non sionistes qui ont participé. Oui. Mais le livre de Sophie Bessis, c'est... je ne sais plus, il y a imposture dedans. Je suis désolée, je ne sais plus. Bon, ben, c'est sur le monde judéo-chrétien.
Voilà. D'accord, Sophie Bessis. Mm. On revient donc à vous, Christian.
Oui, donc après cette matinée, donc l'après-midi à 16h, il y aura une manifestation et déambulation pacifiste en musique avec la batucada, la battante au départ de l'esplanade Charles de Gaulle. Donc 16h, au départ de l'esplanade Charles de Gaulle, il y aura une manifestation, déambulation, venez aussi nombreux que possible pour montrer que finalement, le mouvement de la paix existe encore dans ce pays.
Je précise simplement que l'esplanade Charles de Gaulle est celle qui est devant la mairie de Montpellier, la nouvelle mairie de Montpellier.
Absolument. Voilà. Absolument. Donc ça, c'était pour le dimanche. Le lundi 22, il y aura une conférence débat à 18h. Cette conférence débat aura lieu... à l'université Paul Valéry, à nouveau avec Sophie Bessis et Logan Girard, qui est représentant pour la paix pour la Ligue des droits de l'homme de Montpellier et doctorant en droit public. Je reviens sur Sophie Bessis, qui effectivement est une des grandes intellectuelles, peut-être une des plus grandes intellectuelles qui existent vivantes en ce moment, puisque on a même un certain nombre de documents et d'émissions sur lesquelles elle dialogue avec... On fait dialoguer ses textes avec ceux de Hannah Arendt. Et donc, c'est quelqu'un qui mérite véritablement d'être écouté et avec laquelle on a la chance de pouvoir échanger dans le cadre de cette semaine. Donc, ne manquez pas cette conférence-là aussi, qui aura lieu donc à 18h. Le thème, c'est « Guerre, violence et système global. Où en est le monde ?» Donc ça, c'est pour le lundi. Le mardi, le 23, donc, il y aura un café actualité au centre, au CDTM, Centre Espace Martin Luther King. Ce sera à 12h, à midi, avec la projection d'un documentaire « Les oubliés de l'atome » de Suliane Favenec, qui sera suivi d'un débat avec Patrice Bouvray. Alors, je rappelle que Patrice Bouvray est un des fondateurs et un des continue à organiser l'Observatoire des armements en France et travaille aussi avec ICANN, qui est, disons, une organisation internationale et française aussi, qui travaille contre la propagation des armes nucléaires et pour essayer de mettre au point, disons, une résolution des Nations Unies qui existe déjà, hein, pour faire que finalement les pays se déclarent contre les armes nucléaires et qu'il y ait un traité mondial sur ce problème-là. Donc c'est aussi un moyen d'écouter et d'avoir plus d'informations sur ces mouvements, disons, qui se mettent en place et qui continuent, disons, à diffuser des informations vraies, confirmées sur ce qui se passe avec les armes. Les oubliés de l'atome, je rappelle aussi que c'est ceux qui ont été victimes de tous les essais nucléaires
qui en souffrent.
Voilà, exactement, en Polynésie, qui en souffrent encore actuellement et qui finalement, sur lesquels il y a eu véritablement un blackout d'informations
en Algérie
aux États-Unis, sur le peuple américain, partout où ont été testées les armes nucléaires. Dans les faits, il y a eu effectivement des décisions gouvernementales. On ne va pas vous rappeler l'histoire même des gens de Greenpeace avec les bateaux coulés, avec les mensonges d'État pendant des années et des années, pour essayer de masquer finalement tout ce qui pouvait se passer sur le système nucléaire. Donc c'est l'occasion d'avoir des informations un peu plus claires, disons, sur ces problèmes-là. Donc ça, c'est pour le mardi. Le mercredi 24, il y a une journée tout public l'après-midi, donc on a essayé aussi de faire qu'il puisse y avoir des animations pour des populations et pour des enfants, pour des jeunes. Donc à 15h, il y a une animation par l'association Odette Louise, qui sera suivie d'un goûter d'ailleurs. Et à 16h30, la projection d'un film d'animation, Le Garçon et le Monde, de Halle et Breu. Tout ça aura lieu finalement au cinéma Nestor Burma, de façon à ce qu'il puisse y avoir une participation un peu plus large aux activités de cette semaine pour la paix. Le jeudi 25, il y aura une conférence débat à la Carmagnole à 18h. L'intitulé, c'est « Construire la paix, les voies du pacifisme pour aujourd'hui et demain ». Cette conférence débat sera avec des intervenants David Adams, ancien professeur de psycho et ex-directeur à l'UNESCO en charge de l'année internationale de la culture de la paix en 2000, et coordonnateur de Culture of Peace New York News Network. Enfin, dans les faits, le réseau, disons, pour la culture pour la paix, en français, en gros. Voilà. Donc, David Adams, c'est un des animateurs principaux de ce mouvement-là. Il y a aussi l'intervention de Raphaël Porteilla, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, spécialiste des relations internationales, des conflits armés et des alternatives non violentes.
Et tout ça va se passer où?
À la Carmagnole. Donc ce sera le soir à la Carmagnole, à 18h, 10 rue de la Palissade. Bon, l'arrêt de tram, c'est le 3, plan cabane. Oui. Donc la Carmagnole, qui est assez connue, disons, pour accueillir des animations
militantes.
Voilà, militantes. C'est encore une occasion, disons, de recueillir des informations de la part de tous ceux qui travaillent sur ces problématiques, disons, de maintien de la paix ou de construction de la paix. Le vendredi 26, il y aura une journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Donc il s'agit, un peu comme je le disais tout à l'heure, de l'intervention de ceux qui continuent à travailler pour mettre en place ce qu'on appelle le TIAN, c'est le traité international pour l'arrêt des armes nucléaires, qui a été déjà signé plus d'une centaine de pays, et pour lesquels, évidemment, tous ceux qui possèdent l'arme nucléaire n'ont pas encore signé, mais pour lesquels on voit se dessiner au niveau mondial, des décisions de vouloir à participer à ce mouvement d'arrêter les armes nucléaires et de les faire disparaître. Je rappelle que ICAN, qui a été un des promoteurs de cette dynamique-là, a reçu le prix Nobel de la paix il y a quelques années. Et que donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour arrêter ces armes nucléaires qui sont un danger pour l'humanité, comme vous le savez tous. Donc de 15h à 17h45, il y aura un agora littéraire, organisé par Nourdine Barra, de la chaire UNESCO Complexité Edgar Morin. Ça aura lieu à la place Plan Cabane, à l'arrêt de tram numéro 3, avec des stands, des animations, des associations de solidarité. À 17h30, de 17h30 à 18h, il y aura le témoignage retour, alors ça c'est important aussi, des 80 ans d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc des personnes qui ont participé effectivement cette année au Japon à la commémoration de ces 80 ans,
bien sûr.
Seront présentes pour expliquer un peu ce qu'ils ont vu et comment, disons, les Japonais eux-mêmes continuent à lutter contre les côtés terrifiants, disons, de ces armes nucléaires. À 18h30, de 18h30 à 19h30, il y aura une conférence débat pour le désarmement nucléaire, comprendre les enjeux, agir pour la paix. L'intervenant sera Didier Latour, qui est un représentant de ADN-34, Arrêt du nucléaire 34, qui, à Montpellier et dans l'Hérault, disons, continue à organiser un certain nombre de conférences, de débats et de manifestations pour, là aussi, arrêter l'utilisation du nucléaire. À 19h30, il y aura un concert pour la paix, festif, évidemment, comme tout concert, disons, avec Horse Gives Birth to Fly, les chanteurs du groupe de Eerie Jazz, Pitch Up, l'orchestre du BTP, Cheb Tati et Mersumix, excusez-moi pour les prononciations, disons, bon, un certain nombre de groupes qui sont des militants pour la paix, tout en faisant, disons, des activités musicales festives, et qui vont essayer de faire, disons, une soirée festive, à laquelle on espère que vous serez nombreux. Ça aura lieu au Parc Clémenceau, donc à 19h30. Une démonstration pour montrer aussi que la lutte pour la paix est quelque chose de joyeux, de gai, et qu'effectivement, quand on se bat pour la paix, on se bat pour une humanité, pardon, joyeuse et vivante, et non pas contre seulement les désastres de la guerre, mais aussi pour se battre pour la vraie vie, comme on dit. Donc voilà, en gros, si vous voulez brièvement résumer,
le programme de la
semaine de la paix. Bon, il y a un certain nombre d'affiches dans la ville qui pourront vous permettre de vous y retrouver. Et
voilà. Est-ce que vous voyez un lien entre la situation actuelle sur le plan international et en particulier les allusions que fréquemment le président de Russie fait à ses propres armes nucléaires? Éventuellement, ça pourrait être aussi du côté du président américain. Est-ce que ça peut également être utilisé dans le cadre de la préparation de cette manifestation, de cet ensemble de manifestations?
Oui, notre position là-dessus est, comme je le disais tout à l'heure, parmi les fondamentaux du mouvement pour la paix. C'est-à-dire toute arme, quelle qu'elle soit, est automatiquement, disons, une arme contre la paix. Ça, c'est une réalité, depuis les plus petites jusqu'aux plus grosses. Mais quand on touche au niveau nucléaire, ça prend des proportions totalement titanesques. C'est-à-dire, on a la capacité de détruire des populations entières, y compris tous les civils, y compris tous les gens qui sont totalement innocents, qui n'ont rien à voir peut-être avec ce que les décideurs politiques ont décidé d'utiliser comme argument pour se battre entre eux ou faire battre leur pays entre eux. Mais je rappelle que le système nucléaire est un système qui détruit absolument tout. Non seulement tout, mais qui en plus, si ça venait à être utilisé, aurait des répercussions terrifiantes sur le climat, et qui dépasserait largement les endroits sur lesquels ces armes auraient été utilisées.
Oui, toute la planète
serait concernée.
Ceci étant, avec un certain bémol, on voit bien en ce moment à Gaza qu'on n'a pas besoin du nucléaire pour annihiler toute une population en la famant, en la brûlant, en détruisant tout sur son passage.
Oui, absolument.
Je pense que le nombre de morts qui est bien loin... le chiffre officiel est bien loin de la réalité, est assez étonnant. Ouais. Et on voit que chaque jour, Israël, enfin le gouvernement d'Israël, invente des choses de pire en pire. Ouais. Quand vous voyez un bus plein d'enfants que l'on brûle, quand vous voyez qu'on lance des bombes sur des tentes dont on sait effectivement que les gens qui sont dedans vont sortir en torches brûlantes, c'est assez atroce et ça vaut... une petite bombe nucléaire.
Hein. Absolument.
D'ailleurs, on dit bien que ce qui a été bombardé à Gaza, ça équivaut à 7 ou 8 Hiroshima. Absolument. Depuis 2 ans.
Absolument. Et je rappelle encore une fois qu'un des premiers livres très importants de Sophie Bézi, c'était « L'arme de la faim ». C'est-à-dire que dans lequel elle expliquait comment finalement des pays pouvaient utiliser l'arme de la faim pour déstabiliser des pays et voire faire à la limite disparaître des populations, comme c'est en train de se passer actuellement à Gaza. Donc il est certain que l'arme nucléaire n'est pas le seul outil malheureusement qui est utilisé pour détruire finalement des populations et les mettre dans des situations extrêmement graves. Les armes, aussi petites soient-elles, quand elles déclenchent finalement des constructions de mafias, des constructions de gangs dans des pays, les impacts sur les populations civiles sont absolument énormes. Et qui fait que finalement, les populations n'arrivent plus à vivre du minimum de ressources déjà très minces qu'elles avaient déjà et se retrouvent dans des situations... On n'en parle jamais parce qu'on n'en connaît pas véritablement l'impact. C'est-à-dire, elles perdent... en particulier des femmes, par exemple, dans ces situations de semi-guerre civile ou de violence quotidienne, perdent régulièrement tous les petits capitaux qu'elles ont pour faire du commerce, toutes ces choses-là, se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent plus soutenir leur famille, les gens meurent, ils ne peuvent plus se soigner, ils vont bien sûr plus à l'école, et finalement, on n'en parle pas parce qu'ils meurent calmement, finalement, tranquillement, les pauvres, disons, dans des suites de ce qui s'est passé et de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Donc, tout cet impact-là était extrêmement important.
On va peut-être faire une petite pause musicale,
oui,
comme c'est l'usage dans notre émission.
Oui, une petite pause musicale. J'ai choisi, un chanteur qui chante la situation en Haïti, qui est l'exemple, effectivement, de ce qui peut arriver sur des populations, même qui ne sont pas en situation de guerre déclarée, mais pour lesquels, avec les armes, on arrive effectivement à détruire une population.
Complètement, voilà. Effectivement.
Sous leurs yeux, la terre saigne, Haïti pleure dans le silence. Des ombres armées sèment la haine, le peuple vit dans la souffrance. Les balles sifflent dans les ruelles, les cris résonnent mais rien ne change. Les dirigeants restent aveugles pendant que le mal nous dérange. Maman serre son fils contre elle, mais la faim et la peur l'étreignent. Elle prie mais le ciel reste sourd pendant qu'on vole leur jour. Oh Haïti, pourquoi tant de douleurs? Les bébés brûlent dans la flamme, sous leurs yeux sans une lueur. Les mères pleurent des vies volées sous le poids des assassins, et ceux qui devraient protéger ferment les yeux, croisent les mains. Dans les rues, la mort danse au rythme des armes qui tonnent. Les enfants tombent, les mères hurlent, mais personne ne résonne. Les pains, les bris d'indifférence, bien loin des pleurs et du sang. Pendant que le peuple s'éteint lentement sous les ordres des tyrans. Qui dira stop, qui brisera ses chaînes, quand la justice sera-t-elle plus forte que la haine? Quand nos enfants auront-ils droit à l'espoir, au lieu de grandir dans le noir? La terre saigne, Haïti pleure dans le silence. Mais un jour viendra l'aurore et renaîtra notre espérance.
Merci. Donc, on peut peut-être revenir un peu sur les intentions de ce projet, autour du mouvement de la paix.
Oui, alors. Bon, les intentions, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours d'essayer de faire circuler l'information pour que la population, d'une façon générale, puisse véritablement connaître qu'est-ce qui se passe par rapport à, en particulier par rapport à ces ventes d'armes et par rapport à l'appui que notre pays, la France en l'occurrence, le rôle qui est joué par rapport à tout ce qui peut se déclencher dans les pays avec ces armes. Le cas d'Haïti est un exemple pour lequel on a pris cette chanson, mais c'est la situation que vivent des dizaines et des dizaines de pays à travers le monde, c'est-à-dire de guerres non déclarées, mais dans les faits de déstabilisation permanente, qui fait que les êtres humains sont dans une situation absolument terrifiante. Donc, dans cette histoire-là, la France joue un rôle qui n'est pas très beau à regarder. Et ce n'est pas le dernier rapport des armées qui vient d'être d'ailleurs mis à jour, diffusé, enfin relayé par Mediapart, qui va nous rassurer, puisqu'il semblerait que, d'après le rapport même du ministère des Armées, l'année 2024 a été la deuxième année la plus importante pour la vente d'armes françaises. Donc la France participe très activement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec toujours des discours qui sont très ambigus sur « non, on ne vend pas des armes, mais on vend des pièces détachées qui, dans les faits, doivent circuler, aller vers d'autres pays dont on ne contrôle absolument pas la circulation », et qui fait qu'au bout du compte, finalement, on participe vraiment très largement à l'armement de nombreuses, soit armées d'État, qui maintiennent des régimes en place. Il suffit d'ailleurs de regarder les plus grosses ventes d'armes de la France vers les pays qui ne sont pas nécessairement des démocraties, c'est le moins qu'on puisse dire.
En particulier dans le domaine de l'aviation.
En particulier dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de beaucoup d'armes qui sont absolument terrifiantes, et peut-être même maintenant, disons, avec la volonté d'éteindre le nucléaire à d'autres pays, au départ, soi-disant, pour des approches civiles, mais dont on sait qu'elles se transforment très souvent en approches, finalement, d'armement. Donc, notre rôle dans ce domaine n'est pas très...
reluisant, c'est ce que, reluisant. Le mot que je disais tout à l'heure. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement.
Exactement. Alors, pour rappeler quand même, pour la semaine de la paix, si vous tapez sur Internet « Mouvement de la paix Montpellier », vous allez automatiquement tomber sur le programme et trouver les informations. Il y a une page Facebook, je crois, du Mouvement pour la paix, où vous aurez les informations également. Donc, voilà quelques qui vous donnera de manière un peu plus précise.
Alors, Monique, est-ce que vous voulez revenir sur le film dont vous parliez ?
Revenir sur ce film, non, mais j'espère bien que vous serez nombreux à venir. Donc, essayez de venir un peu à l'avance, parce qu'il se peut effectivement que beaucoup de personnes soient intéressées par ce film. Donc, je rappelle qu'il est à 11h à l'Utopia. Oui. Donc, si vous prenez le tram, c'est le tram 1 à Saint-Éloi, et c'est... Et c'est donc à 3 minutes du tram. C'est vraiment un film qui est intéressant parce qu'il a donc été tourné avant le 7 octobre. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a certains jeunes qui quittent Gaza après avoir été embrigadés et obligés d'aller sur place pour tirer sur des populations. On voit certains jeunes qui se suicident une fois qu'ils reviennent dans leur foyer parce qu'ils doivent se rendre compte de ce qu'ils ont fait et qu'ils ne supportent pas d'avoir participé à ce massacre, à ce génocide. Je suis désolée, mais j'emploie le mot. C'est bien un génocide. Il suffit de voir la définition du mot dans un dictionnaire et tous les articles de la définition de génocide y sont. Donc, c'est vraiment un film très important et ça montre aussi à quel point les jeunes israéliens sont formés depuis leur berceau à haïr un peuple dont ils ne connaissent rien, puisque là-bas, ils ne peuvent pas se côtoyer. Donc, ils vivent sur une espèce de fantasme, sur l'idée que la terre leur appartient et que donc il faut dégager tous les Palestiniens. Et quand vous entendez qu'on doit tuer les enfants dès le berceau, ça rappelle exactement une phrase d'un certain Himmler qui disait la même chose pour les Juifs, que si on tuait les parents, il fallait malheureusement, on disait que c'était malheureusement, tuer leurs enfants pour pas qu'ils se vengent un jour. C'est exactement le même discours que l'on entend du gouvernement de Netanyahou.
Eh bien, merci beaucoup, Monique. Merci, Christian, pour ce débat, cette discussion que nous avons eue et cette présentation du programme de la fête du Mouvement de la paix. Voilà. Bon, voudrais également remercier notre accueil ici à, dans la communauté protestante. Voilà. Merci beaucoup.
Et bonne journée à tout le monde. Bonne semaine.
Bonne semaine et venez nombreux.
Voilà.